soirée de lancement de « Et maintenant, le pouvoir, un horizon poétique afroféministe » aux éditions Kombourakis. Je suis en conversation avec Laura Nsafou et les lectures sont effectuées par Marie-Julie Chalut et c'était le 3 mars 2022 à La Flèche d'Or à Paris.
Réhabiliter les politiques de l'identité. Le particularisme, la singularité et la souveraineté seront les trois fils tressés sur lesquels je vais m'essayer à un exercice d'équilibriste politique et idéologique. Le particularisme et la singularité sont souvent érigés en mots absolus des luttes collectives, conduisant à la séparation, à la fragmentation ou au réductionnisme identitaire et personnel. Je me propose d'aller à rebours, en m'inscrivant dans la lignée des principes de la pensée des féminismes noirs, en considérant que les particularismes et les singularités des sujets politiques subalternes permettent d'éclairer les conditions humaines. Cette entreprise est impossible sans la réhabilitation préalable d'un concept utilisé à tout va comme un anathème, celui de politique de l'identité. Ce concept a été formulé aux États-Unis en 1977 par le Combahee River Collective, un des premiers collectifs black féministes, qui écrit, je cite, « Nous nous rendons compte que les seules personnes qui s'intéressent suffisamment à nous pour travailler de manière consistante pour notre libération, c'est nous-mêmes. Notre politique naît d'un saint amour pour nous-mêmes, nos sœurs et notre communauté, qui nous permet de continuer notre lutte et notre travail. C'est dans le concept de politique de l'identité que s'incarne notre décision de nous concentrer sur notre propre oppression. La politique la plus profonde et potentiellement la plus radicale émane directement de notre propre identité et non pas de lutte pour en finir avec l'oppression d'autres personnes. Dans le cas des femmes noires, il s'agit d'un concept répugnant, dangereux, menaçant et donc révolutionnaire. Car au vu de l'ensemble des mouvements politiques qui nous ont précédés, il est évident que n'importe qui mérite davantage sa libération que nous. Nous rejetons les piédestaux et nous ne voulons ni le titre de reine, ni marcher 10 pieds en arrière. Être reconnue comme humaine, tout simplement humaine, nous suffit. Nous pensons que la politique sexuelle, sous le patriarcat, joue un rôle aussi important dans la vie des femmes noires que les politiques de classe et de race. Souvent aussi, nous avons du mal à séparer les oppressions de race, de classe et de sexe, parce que fréquemment, dans nos vies, nous en faisons l'expérience simultanée. Fin de la citation. Cette définition, claire, se traduit politiquement non pas par une mobilisation autour de la reconnaissance individuelle des identités, mais par l'analyse de l'adaptabilité des systèmes de domination au regard des identités et des catégories socialement construites. Cette définition n'exprime ni la demande par chacun chacune d'une reconnaissance individuelle de ses souffrances, ni l'instrumentalisation de son identité dans un contexte politique. Elle ne signifie pas non plus que l'expérience et le vécu sont des bases suffisantes pour construire des analyses et projets politiques. S'organiser en s'appuyant sur la politique de l'identité, c'est éviter le cul-de-sac que décrit l'essayiste afro-américaine Melissa Harris Perry. L'expérience personnelle est un lieu formidable pour concevoir des hypothèses, mais caduque lorsqu'il s'agit de les tester. Fin de la citation. En montant en généralité et en confrontant les hypothèses élaborées à la réalité politique. Entamé par les groupes réactionnaires de droite aux États-Unis, le processus de déformation du concept d'identité politique a été repris par les gauches blanches, marxistes, radicales, et les mouvements antiracistes qui l'utilisent contre les luttes dites minoritaires, tantôt à propos de la question raciale, gauche blanche, marxiste, tantôt à propos des luttes féministes, queer et trans noires ou racisées, mouvement antiraciste. Cette convergence entre les réactionnaires et la gauche dite radicale, prise au sens large, s'inscrit dans une forme particulière de négrophobie, la misogynie noire. Il existe d'autres exemples de termes ou concepts créés par des femmes noires, désormais utilisés pour discréditer politiquement et intellectuellement des adversaires politiques. Intersectionnalité, conceptualisée par Kimberly Crenshaw, woke, utilisée par les mouvements noirs, self-care, popularisée dans le sens politique par Audre Lorde. L'objet principal de cet ouvrage est le pouvoir et son sujet politique, les femmes noires. J'ai procédé à des choix idéologiques, théoriques et politiques servant à éclairer tant mes analyses que les objectifs politiques afroféministes et révolutionnaires, en mettant au centre une ambition qui est perçue comme inattendue venant des femmes noires, la quête de pouvoir. Le pouvoir intime et quotidien sur nos corps, esprit et devenir, mais aussi le pouvoir émanant d'une organisation collective ciblant le contrôle des moyens de production et l'autonomie politique et sociale. Bien que l'afroféminisme contemporain soit analysé et commenté par les milieux universitaires, peu, et médiatiques, beaucoup trop, les ouvrages issus d'une démarche militante réflexive traitant de la politisation et de la condition des femmes noires dans le contexte français, sont plus que rares. Ce livre veut donner corps à une parole militante contemporaine, exprimée à la première personne du singulier comme du pluriel. Le « je » comme militante afroféministe et productrice de pensée politique, le « nous » en tant que mouvement politique. Ces deux paroles n'auront pas pour but de témoigner mais d'expliciter et de proposer des pistes de réflexion autour du pouvoir, du particularisme, de la singularité et de la souveraineté. Cette réflexion porte sur les espaces où se déploie la domination, la violence et le pouvoir. Elle s'intéresse aux formes que le pouvoir revêt, aux formes que l'on vise collectivement, aux stratégies pour le prendre, renversement du rapport de force, création d'un mouvement de masse, et à l'objectif qu'on lui assigne, collectivisation des moyens de production, abolition du patriarcat et du racisme. Cet essai est une proposition afroféministe radicale pour toutes les conditions subalternes. Une déclaration qui vient signifier au plus grand nombre l'intention révolutionnaire que porte l'afroféminisme. Cette déclaration ne vient ni demander, ni réclamer. Elle vient notifier un projet qui vise à faire advenir un monde nouveau. Il n'existe pas d'échappatoire définitive et durable à la misogynie noire, mais seulement des espaces collectifs ou familiaux qui me permettent d'atténuer ses effets, de faire une pause ou de résister, des espaces qui favorisent l'évitement, le retrait et le déni. Qu'ils soient collectifs, familiaux, politiques ou individuels, ces espaces ne font pas disparaître la violence qui prend alors des formes différentes. Discrimination, silenciation, silenciation, effacement, violence physique, émotionnelle et sexuelle. Il n'existe pas d'échappatoire et la seule solution est bel et bien l'abolition de la misogynie noire. Cette dernière se distille, s'infiltre et conditionne nos interactions, nos relations avec les autres et nous-mêmes. Elle détermine aussi la manière dont sont interprétées nos actions, nos existences et ce que nous produisons, à commencer par les espaces, concepts et pratiques militantes comme l'afroféminisme. Car l'afroféminisme, les féminismes noirs, sont une production des femmes noires pour servir leurs propres intérêts. Ce qui encore aujourd'hui est perçu tout à la fois comme inacceptable, risible et effrayant.
Et égocentrique sur ses propres souffrances. Donc on va voir, ce discours va être pris en disant tout le monde se concentre sur soi alors qu'il y avait une époque, je ne sais pas, imaginaire, où tout le monde pensait au bien collectif. Et là, c'était pour recentrer un concept qui a été créé, qui s'appelle Identity Politics, la politique d'identité, qui est utilisée à tout va pour discréditer, mais qui a une généalogie qui existe et qui a été créée dans une certaine pratique politique. Et on voit comment les concepts dérivent pour être utilisées comme des insultes. Et on peut voir aussi commencer, pas que avec politique d'identité, mais avec en ce moment la panique morale qu'il y a autour du mot woke, intersectionnel, etc. Donc ce mouvement de dépolitisation et de transformation politique de concepts de libération se fait à chaque fois et en dehors des instrumentalisations pour attaquer les groupes. Et je pensais que c'était vraiment important de dire que c'est pas parce que les concepts y circulent qu'il faut oublier leur généalogie et leur et comment ils sont historicisés.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu commences ton essai, tu parles aussi de ton choix de forme pour cet essai. Mmh. C'est-à-dire que tu as voulu mettre en confrontation, enfin en dialogue justement, le jeu et le nous, alors qu'en général, l'un des curseurs un peu d'objectivité dans les essais, c'est qu'il ne faut pas utiliser le jeu, etc. Est-ce que ça a été une contrainte dans l'écriture ou est-ce que c'était plutôt facile ?
Non, en fait, je pense que le fait que il ne faille pas utiliser le jeu, c'est assez courant dans un certain type d'essai politique, d'une certaine tradition très occidentale de un nous qui serait universel, parce qu'il y a, cette question de ben, l'auteur qui écrit des essais politiques, il écrit nous parce qu'il parle de lui et de tout le monde. Et la plupart des auteurs qu'on lit, qui écrivent des essais politiques, c'est des hommes blancs qui ne parlent que d'eux. Mais ils disent, ils parlent de nous, comme ça, on va juste répéter, oui, nous, la condition humaine, mais quelle condition humaine et de quel humain on parle. Donc le nous, par exemple, est très utilisé dans la tradition radicale noire. C'est-à-dire, le nous est utilisé quand W.E. Du Bois parle des noirs de la condition noire, par François Fanon, par Aimé Césaire, par Suzanne Césaire, par Toni Morrison. Et le livre commence, l'introduction commence avec une citation de Toni Morrison qui dit « Je ne veux pas parler des noirs, je vais être une voix parmi eux. » Et moi, c'est ce que je dis, je ne veux pas parler des noirs, je vais être une voix distincte qui dit des choses je ne dis pas représenter tous les noirs, je ne dis pas parler à la place de tous les noirs, mais je suis une voix qui fait partie de ce groupe qu'on dit les noirs. Donc en fait, c'était important de dire le je et le nous. Donc il y a le nous qui subissons la subordination, et après il y a le je de ce que moi je propose et ma propre subjectivité, et comment j'arrive à trouver ma propre subjectivité dans le nous et sans être en conflit. C'est-à-dire, c'est pas pour vivre mon individualité, je n'ai pas besoin d'accomplir la promesse républicaine de m'extraire et dire non, je refuse la race, non, je ne suis pas que noire, non. Je ne suis pas que noire, mais je ne suis pas autre chose non plus que noire. Donc c'est pas mutuellement exclusif. Donc c'est ça que c'était important. Et je pense que c'est une tradition assez importante dans la pensée radicale noire, que ce soit depuis la révolution haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, et quand il a écrit la déclaration d'indépendance, il a dit « Nous n'avons rien à voir avec les barbares et sauvages esclavagistes français ». Donc il parlait de lui et de nous.
Et tu dis que ton jeu porte à la fois cette pensée politique, mais il y a aussi des micro-anecdotes personnelles quand même qui se glissent. C'était peut-être un peu un jeu d'équilibriste, puisque j'ai quand même l'impression que quand on parle d'afroféminisme en France, les gens s'attendent tout de suite à des témoignages très personnels, etc. Donc quand tu as fait ce choix aussi de mettre des souvenirs d'enfance, quand tu parles notamment de comment ton afroféminisme est né dans la cuisine justement de tes tantes, etc., est-ce que t'avais pas vraiment peur que ça, comment dire, que ça enlève un petit peu justement ce critère de crédibilité, ou justement tu t'étais sentais quand même à l'aise d'aller dans un jeu plus intime?
Je pense que la question de qui on cherche toujours à avoir des témoignages, et la question c'est pas le témoignage, parce qu'on peut témoigner et servir de son expérience personnelle, mais c'est demander le témoignage mais sans l'analyse. Mmh. C'est comme par exemple quand et des analyses de data comme sociologue ou des analyses de... C'est comme si on demande aux gens, ah, ok, parlez, et moi je vais aller vous interpréter ce que vous voulez, ce que ça veut dire sociologiquement, et monter en généralité. Donc je pense que la question, c'est le problème, c'est pas d'utiliser ses expériences personnelles, c'est comment on arrive à monter en généralité à partir de ses expériences personnelles. Et pour monter en généralité, il faut reconnaître que ces expériences sont personnelles et individuelles, qu'elles peuvent faire l'écho dans un système à des systèmes d'oppression, et permettre d'analyser ces systèmes et permettre d'analyser aussi comment ils s'articulent. Mais ces expériences individuelles, vu qu'on n'a qu'une seule vie, elles ne recouvrent pas la totalité de l'espace social, du champ social et de la réalité, ne peuvent pas constituer la totalité de notre analyse. Donc oui, j'utilise des petits bribes de souvenirs, mais pour dire comment je mobilise ces souvenirs pour regarder avec le temps, pour regarder en arrière, pour faire un travail de réflexivité. Et si j'arrive à regarder ces souvenirs avec cette analyse aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'expérience militante, mais aussi de lecture et aussi théorique, pour pouvoir proposer cette analyse. Mais ce n'est pas un recueil de souvenirs.
Clairement. Ma dernière question, c'est sur la question de la misogynie noire, qu'on a entendu dans cet extrait aussi. On l'a entendu, tu estimes qu'il n'y a pas de solution à la misogynie noire, qu'il n'y a que l'abolition qui est possible. Et surtout, en fait, dans ton livre, tu fais le choix d'analyser la question de la misogynie noire, non en partant de l'intime, donc à travers des expériences de dating, comme souvent on peut plus facilement trouver comme ressource, mais en partant d'un fait divers, survenu en 2009, donc une affaire de viol sur mineur, où la défense de l'accusé a évoqué la chaleur africaine pour justifier qu'il s'agissait d'un rapport consenti entre l'accusé et sa victime, une fille noire de 11 ans. Est-ce que c'était important pour toi, du coup, de montrer que la misogynie noire était aussi orchestrée par les institutions et aussi maintenue par celles-ci ?
Oui, parce que je pense que, de toute façon, avec la misogynie noire, mais aussi la misogynie, les espaces où on rencontre en premier la misogynie, c'est dans les espaces intimes, les espaces personnels, avec la politique sexuelle qui est à l'intérieur des familles. Mais c'était aussi important de voir qu'au niveau institutionnel, comment on retrouve ça et comment il y a tout un lien entre ça, et ce n'est pas décorrélé. On ne peut pas juste parler de la misogynie qu'on a dans nos relations interpersonnelles si celle-ci n'était pas soutenue par une structure et par une présence au sein des institutions, ce ne serait pas possible. Et je pense que ce qu'on arrive difficilement à faire la différence, c'est de dire qu'il est possible qu'il y ait de la misogynie, du sexisme, des systèmes de domination sans besoin que ce soit inscrit dans la loi. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des époques où il était inscrit dans la loi, les femmes ne pouvaient pas faire ça, etc. Donc, il y avait l'appui de la loi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas inscrit dans la loi qu'on ne peut pas avoir un travail, etc. Mais dans la vie quotidienne, on n'est pas encore là. Donc, en fait, là, c'était dire qu'il n'y a pas une loi qui dit « Bon, les femmes noires vont être traitées comme ça, etc. » Mais dans les faits quotidiens, dans les rapports avec les individus au sein de la famille, dans les rapports avec l'État, dans la représentation médiatique, dans la représentation qui est faite dans la politique, dans les confrontations, ben, on retrouve ça. Donc, c'était important de dire que même si ce n'est pas inscrit, ça existe. Et c'est à ça que sert la politique, c'est de dire qu'en effet, on peut se battre sur la loi, sur le fait de faire changer les politiques publiques, mais ce combat sur la loi et les politiques publiques ne sera pas suffisant parce qu'il faut s'attaquer aussi aux choses qui ne sont pas inscrites. Donc, c'est aussi pour rediriger ce qu'on appelle la justice sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, la justice sociale ? Ce n'est pas très optimiste, hein, mais c'est que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut considérer qu'il n'y a pas de... il n'existe pas une prétention à la liberté chez les gens. C'est-à-dire qu'il faut... parce que je pense que ce qui nous a trompés, c'est de penser que tout le monde aspire à être libre, etc. Donc, on va se battre pour atteindre cette aspiration. Mais au contraire, il faut définir que les gens n'aspirent pas à être libres, ils aspirent à être confortables et avoir de la proximité avec le pouvoir et le confort. Et à partir de là, non pas dire « Oh, bah, comme ils n'aspirent pas à être libres » et faire comme les espèces de réactionnaires, dire « Bon, on va les maintenir comme ça parce que c'est ce qu'ils veulent » ou avoir une mauvaise analyse de Matrix, mais dire bah, « Comment on peut faire que les mouvements sociaux ont pour objectif, en même temps que changer le quotidien, de faire naître cette aspiration à être libre et pas juste à être confortable, pas juste à être un petit bourgeois confortable, pas juste être un peu plus confortable. Donc, c'était ça aussi, de dire ça, que les choses qui ne sont pas écrites, ce n'est pas que les lois, et faire un mouvement social, faire un mouvement social révolutionnaire, c'est s'attaquer à ça et faire naître comment on fait naître collectivement l'aspiration à la liberté, parce que c'est une erreur de considérer que les gens aspirent à la liberté ou ont une définition claire de ce que c'est, ce que ça veut dire la liberté collective.
Je vais donc laisser la parole à Marie-Julie pour la suite de l'extrait.
Le terme « parvenu » a été facilement détrôné par celui de « transfuge de classe », moins insultant, et émanant du champ de la sociologie. D'aucuns, d'aucunes soutiennent que la principale caractéristique du transfuge de classe est d'avoir réussi à déjouer le déterminisme de la reproduction sociale, d'être un ou une évadé statistique. Pour ma part, j'aimerais affirmer au contraire que l'existence du transfuge de classe participe au déterminisme social et à la reproduction sociale des élites. Elle est une nécessité pour le maintien du néolibéralisme. Prétendre déjouer le déterminisme à travers cette position sociale implique la non-prise en compte de plusieurs éléments. L'aspiration à la vie petite bourgeoise, au bien-être, au confort et à moins de discrimination ne sont pas des forces mobilisatrices. Ce sont en revanche les barrières et les barbelés sociaux qui font obstacle à la mobilité de la plupart des personnes issues de milieux populaires. La valorisation de la méritocratie, du récit personnel d'ascension sociale et du storytelling ont rendu un peu désuets les stratagèmes à la Rastignac. Contrairement à l'aristocratie, la bourgeoisie se targue de savoir reconnaître le travail et le talent. Elle voit d'un bon œil celles et ceux qui, par le jeu de la méritocratie, changent de classe pour rejoindre ses rangs. Loin de la frapper d'infamie, cette mobilité sociale lui apporte au contraire du prestige moral. Travail, talent et obstacles sont souvent mis en récit par les concernées elles-mêmes. Ce qu'on retrouve au cœur de ces récits est moins la question de l'argent que celle du capital symbolique. Ce n'est donc pas un hasard si universitaires, écrivains, écrivaines, journalistes et autres professions intellectuelles constituent la majeure partie des personnes qui produisent ces discours. On les entend beaucoup moins de la part des footballeurs millionnaires ou encore des commerciaux avec des salaires annuels à 6 chiffres. Les transfuges de classe, pour la plupart, permettent de régénérer la petite bourgeoisie. La mobilité sociale ne s'accompagne pas forcément d'une totale mobilité de mouvement dans l'espace social, même si elle est nettement facilitée. Et nos familles sont très hétérogènes à cause de la migration et des effets différenciés de la discrimination raciale et administrative. Je tiens à souligner que je n'ai aucun doute sur la nécessité de concepts sociologiques pour analyser la mobilité sociale ou la non-mobilité sociale, ou même la violence symbolique qui se déploie contre les personnes en mobilité sociale. Mes doutes portent sur la relocalisation de sens et d'objectifs de la notion, qui passe d'un outil de compréhension de l'ordre symbolique à une sorte d'identité se désignant comme politique, sans cependant s'accompagner d'une volonté d'agir ni d'aucun pouvoir collectif. En devenant un marqueur d'identité, la notion de transfuge est devenue inopérante, comme critique ou même comme outil de lutte contre les systèmes de domination. Au contraire, elle permet implicitement de solidifier l'ordre symbolique en dotant le capital culturel légitime, utile et nécessaire d'un nouveau caractère normatif. Il renvoie à l'aspiration à la bourgeoisie et à la blanchité comme synonyme de pouvoir, comme l'expliquait déjà Fanon. Rien ne nous empêche dès lors d'imaginer qu'on puisse à l'avenir étendre la notion de transfuge de classe aux enfants, aux proches ou aux amis de transfuges. Mais quel serait l'intérêt de cette extension ? Revendiquer un statut de transfuge de classe n'est pas d'une grande utilité pour les intérêts et les luttes de la classe prolétaire d'origine. On ne peut être transfuge que dans un seul sens. Cependant, c'est en tant qu'outil de médiation sociale que l'adoption la revendication de la qualité de transfuge de classe peut être bénéfique. Elle permet aux transfuges de se lier à d'autres transfuges sur la base d'une lecture commune des parcours de vie. Mais surtout, elle facilite sa traduction en termes sociologiques à destination des non-transfuges qui composent désormais leur cercle de socialisation, et notamment celles et ceux qui s'autoproclament progressistes. L'emploi du terme de transfuge de classe devient donc un élément légitime de narration de soi, qui permet de dépasser la honte ou la peur des faux pas et offre la possibilité de démontrer une fois de plus une bonne maîtrise du cadre de réflexion légitime et de la façon petite bourgeoise de régler les conflits et les malaises. En finir avec les transfuges de classe ne signifie pas ne plus utiliser le terme comme cadre d'analyse, mais refuser les implicites du concept, au sens que lui donne Saïdjia Hartman, qui peuvent être un frein à penser d'autres rapports de classe. Se concentrer sur la notion de transfuge de classe conduit le plus souvent à une critique de la difficulté à acquérir le capital symbolique nécessaire à l'amélioration de sa place et de ses conditions matérielles d'existence. La légitimité de la distribution des positions ou la nécessité d'aimer Picasso période bleue pour avoir accès à des postes sont beaucoup moins souvent remises en question. Un autre piège du néolibéralisme est celui de la réforme par l'assimilation. On peut voir apparaître des critiques du capital culturel légitime, qui ne questionnent pas son existence même, mais exigent sa diversification. Le but n'est donc pas de démanteler le capital culturel légitime, mais de faire entrer les productions culturelles des marges dans le panthéon de ce qui est légitime. Évidemment, cette incorporation nécessite de rendre cette culture intéressante pour les éléments blancs et bourgeois de la société. Les trop nombreux magazines de rap dont la rédaction ressemble à un BDE de HEC nous rappellent que la question de la légitimité porte moins sur l'objet que sur celles et ceux qui s'intéressent à ces objets et les rendent légitimes, et surtout sur leur capacité à diversifier leurs goûts. Il faut donc refuser l'aspiration à l'éthos petit bourgeois, non pas tant certaines pratiques de consommation que l'idéologie de supériorité définitive qu'elle porte.
Merci. On attend ton commentaire, du coup.
Je ne suis pas allée à HEC, donc je ne sais pas à quoi ressemblent les BDE d'HEC. J'ai fait une extrapolation depuis les BDE de sciences politiques.
Mais c'est intéressant quand même que tu reviennes justement aussi longuement, et c'est nécessaire, sur la notion de transfuge de classe. Du coup, pourquoi pourquoi déjà avoir...
Ah, j'étais fatiguée. j'étais fatiguée parce qu'en fait, en plus, moi, je vivais ma vie tranquillement à Brooklyn, j'ouvrais mes petits coffee shops, etc.
Il faut juste rapprocher.
Voilà, je disais que je vivais ma vie tranquillement. Je vais à la bibliothèque, aux archives, je passe ma vie avec des gens morts depuis très longtemps. et après, je reçois toujours des messages. Oui, je voulais avoir votre opinion sur les transfuges de classe, vous en tant que transfuge de classe. Et moi, je disais, mais qui vous a dit que moi j'étais une transfuge de classe? Qui vous a dit? Et j'étais assez fascinée de voir que en fait, c'était ça. C'était en fait ce qu'ils disent, transfuge de classe, c'est juste dire que tu es un parvenu. C'est juste ça. Mais là, ça fait plus genre, ok, on connaît Bourdieu. Et j'ai dit, mais c'est quoi l'obsession pour être un transfuge? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de valorisation? Et c'est cette idée de narration de soi. Et la narration de soi, elle est pour qui? Est-ce que moi, le fait que je suis transfuge de classe, est-ce qu'elle est la narration de soi? Elle est pour les gens de ma famille qui n'ont pas fait de la mobilisation sociale? Non. De toute façon, ils sont toujours à dire, mais qu'est-ce que tu fais à l'école encore à ton âge? Donc, ils sont pas très intéressés. Donc, la narration de soi, elle serait utile pour la classe que je suis censée revenir, c'est-à-dire que pour les académiques dans lesquelles je suis, mais à quoi ça sert? Et donc l'idée c'était ça en fait, ça sert à faire la médiation. Et c'est une idée que j'avais dans le premier livre quand je parle de la question privilège, allié, etc. Mmh. Ben, la notion de privilège et d'allié, c'est aussi une notion qui sert de médiation. Ça ne sert pas de mobilisation collective, ça sert pour des gens dont lorsqu'on parle d'alliés, de privilèges sur les questions raciales, ça sert pour des gens dont la plupart de leur socialisation, ce sont des Blancs, à résoudre les conflits raciaux qui existent avec des concepts. Au lieu de juste dire, bon, ben, ça arrive, hein, on a des amis qui sont hommes, qui disent des trucs sexistes, ben, dire, mais non, c'est de la merde. Tu dis, mais non, là, il faut que tu sois un allié, non, il faut être un bon ami, un bon partenaire, un bon parent, etc. Et ça nécessite de ne pas être raciste. Optionnel, mais ce serait mieux. Donc voilà, donc je pense que la notion de transfuge de classe, elle n'est pas faite ni pour la. C'est pas un discours vers la classe prolétaire, c'est un discours vers les éléments bien progressistes. Hein. Je ne parle pas des conservateurs à la Darty qui, eux, veulent se mélanger avec personne. Je parle vraiment des éléments qu'habitent, genre le 10e, Goncourt, vous voyez, Véja, etc. Donc pour les éléments, je dis progressistes de la bourgeoisie qui ne sont pas des transfuges de classe. Et qui sont en socialisation avec ces personnes qui sont transfuges de classe, et ça permet de faire un médiateur. C'est-à-dire que c'est comme si la narration de soi, elle est faite par quelque chose qui est plus grand que soi-même et plus grand que les faux pas qu'on peut faire. Mais la question est de savoir, donc, OK, une fois qu'on a narré ça, à quoi ça sert ? Et le problème de ça, c'est que des questions petites bourgeoises, des éléments les plus proches on va dire, je dirais même pas, ils sont pas proches de la bourgeoisie parce qu'ils ont juste le capital symbolique, mais ils ont pas l'argent, parce que ça serait, font que veulent centrer ça comme question importante pour la plupart des personnes qui sont la classe prolétaire. Mais ce n'est pas une question importante de la classe prolétaire que les dîners en ville, des transfuges de classe se passent bien et que personne leur fasse remarquer qu'il faut mettre ses couverts par l'air. Ce n'est pas une question essentielle. Mmh. Ce n'est pas une question essentielle que les gens disent « Oh, tu ne savais pas ça, etc. Tu ne connais pas ce... » Non, ce n'est pas une question essentielle. Mais comme ils sont dans les espaces qui donnent la parole, ben, ça devient une question répétitive, les transfuges de classe. Et quand je... Non, une question essentielle, c'est le droit au logement, les violences policières, la question de la migration, les violences sexuelles et sexistes. Ça, ce sont des questions essentielles. Mais comment on centralise les aspirations, les ambitions petit bourgeois, des éléments qui arrivent le plus de mobilité dans les discours sur les conditions matérielles d'existence des populations noires, par exemple, ou des populations marges et subalternes, ça, c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'on doit aligner les désirs et les ambitions des classes qui souffrent le plus avec ceux qui sont proches du plafond de verre. Et comme je dis, le but des organisations politiques, c'est de rester proche du plancher collant.
Et justement, ce qui est intéressant, c'est que pour montrer cet écart-là, tu as souligné aussi l'hétérogénéité des familles noires, en fait. Est-ce que tu peux, du coup, développer ce point, parce qu'il n'était pas forcément dans cet extrait-là. Mais déjà, merci de l'avoir fait.
Non, mais en fait, c'est ça, parce que le truc, c'est de dire, oui, on transfuge, mais tu transfuges tout seul. Tu transfuges tout seul, mais tu es obligé d'envoyer des Western Union. Donc, est-ce que tu transfuges ou pas ? À quel point ton compte en banque, il transfuge avec ça ?
Voilà,
donc, en fait, il y a toute cette notion. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est moins sur la question financière, parce que techniquement, si on regarde, on va voir que c'est des gens, ils gagnent ce que gagne un bon commercial. Ils doivent gagner autour de... Ils doivent être dans la tranche 40 à 90 000. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la question financière, mais vraiment la question de capital symbolique. C'est vraiment la question du capital symbolique, là où on va, où on socialise, avec qui on dîne, de quoi on fait, où est-ce qu'on prend son temps de repos. Et c'est pour ça que c'était important de noter que c'était pas financière, parce que c'était pas en mode je fais monter toute la famille comme, je sais pas, des gens qui sont devenus millionnaires comme des footballeurs, etc. Ou des gens qui gagnent très bien leur vie comme des rappeurs, mais ça c'est plus, et des chanteurs, ça c'est plus aux États-Unis, parce qu'en France il y a très peu de millionnaires rappeurs, vraiment sur la question de la socialisation et du capital symbolique et du capital culturel. Et en voulant faire croire que c'est comme si c'était subversif, c'est pas subversif du capital symbolique et du capital culturel de juste vouloir que des personnes qui ont fait Sciences Po à HEC aiment le rap et pouvoir parler de rap avec eux. Et on a vu à quoi ça mène. On a vu à quoi ça mène. Genre, toutes les rédactions, on dirait, même Libé est plus diversifiée que les rédactions de magazines de rap. Donc, ça n'a aucun sens.
Franchement, t'es toujours obligé de faire des pics comme ça, là.
Contextualisation.
Oui, contextualisation. Exemple concret. Et justement, enfin, toutes ces complexités en fait, que tu me pointes, justement, en parlant de transfuge de classe, est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui amène une certaine difficulté à aborder les questions de classe en général, déjà dans nos communautés, mais aussi en dehors? Et même, je pense aussi à l'égard des jeunes, parce que tu parlais des footballeurs millionnaires, etc. Donc, est-ce que ça ne participe pas aussi à un peu flouter un peu les vraies conversations, finalement?
Ben là, je vais revenir sur le précédent plan, pour dire que en fait, l'aspiration collective et ce qu'on nous vend, vu qu'on vit dans cette société, ce n'est pas une aspiration à la liberté, mais c'est une aspiration au confort. Donc, ce que les organisations doivent faire, c'est pousser une aspiration à la liberté et non pas au confort. Mais ce n'est pas possible de pousser une aspiration à la liberté et non pas au confort si on ne s'engage pas dans des luttes qui peuvent changer la structure des moyens d'existence. Parce que l'aspiration à la liberté, mais pas avoir de toit, ça ne sert un peu à rien. Donc l'idée, c'est de dire, mais en fait, l'aspiration à la liberté doit être accompagnée toujours avec la possibilité de faire que les moyens, les conditions d'existence, matérielles d'existence collective soient disponibles et disposées. Et pour ça, il faut attaquer la distribution des richesses, la privatisation et aussi la répartition du bien-être et du pouvoir. Donc c'est pour ça que la seule chose qu'on nous laisse, c'est les aspirations néolibérales. C'est dire, bon, on va tous y arriver. Ah, donc avant, il faut avoir un diplôme pour y arriver. Là, comme on a vu que les bac plus 5, ils ne trouvent pas de travail, c'est bon. Il faut faire des CV originaux ou aller sur LinkedIn. Donc, je ne sais pas, la prochaine fois, il faut faire des vidéos. Après, je ne sais pas. Après, il faut être un entrepreneur de soi. Donc là, plus le néolibéralisme avance, plus on arrive aux dernières étapes du capitalisme, plus ça semble difficile, ce truc de on va avoir un bac plus 5, on va avoir un travail, on va avoir une maison, etc. Plus ça semble compliqué. Donc là, on essaye autre chose. Il faut acheter des NFT, investir dans les cryptos, faire deux jobs, etc. Et ça, c'est ça qui reste. C'est ça qui reste comme pouce. Donc après, on a des propositions politiques comme il faut qu'on soit plus riche collectivement, et comme plus riche collectivement, on va faire du capitalisme racialisé. Mais sur le dos de qui? Donc en fait, l'ambition, c'est pas qu'on arrive tous à se partager les richesses qui sont produites collectivement, mais que les plus méritants arrivent à être les plus confortables. Et c'est pour ça qu'il faut adresser la question de classe pas comme une question de mérite, mais comme une question nécessaire de justice, et qu'on n'est pas amené pour juste payer un loyer et mourir sans retraite. Enfin, ça, c'est le plan de Macron, mais à peu près.
J'arrive du coup à la dernière question, et après, je laisserai la parole au public. J'ai l'impression que, alors, quand tu as parlé de capital symbolique, forcément, ça m'a fait penser à la manière dont ce terme-là a été instrumentalisé dans les années 2010 par les féministes blanches, par la gauche, par l'extrême droite, pour rendre illégitime les premières réflexions afroféministes. Et surtout, je parle de réflexions afroféministes, mais des fois, c'était juste une femme noire qui cite Bell Hooks et on lui dit « capital symbolique ». Donc, est-ce que tu peux...
Non, comme il n'y a que eux qui savent lire. Il y a des bouts, il y a des livres partout. Et c'est, en fait, ce qui était malhonnête, c'est vraiment, c'était des mouvements qui, matin, midi soir, pour les féministes majoritaires, matin, midi soir, et ils citent même les notes de bas de page dans Simone de Beauvoir. Donc, il faut être un peu malhonnête pour dire ça. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée de... Il y a certaines catégories et certains démographiques qui doivent rester dans le témoignage et être... comment dire ? En fait, c'est comme il y a une iconographie du dominé qu'on va sauver. C'est-à-dire que dans les années 60-70, il y avait la figure personnes immigrées qui se mobilisaient, qui faisaient des manifestations, mais que sur les plateaux télé, en fait, c'était Bourdieu qu'on invitait pour faire l'analyse de ce qui se passait. Ou avant ça, c'était Sartre qu'on invitait pour faire l'analyse de ce qui se passait. Donc, la question, c'est de savoir, oui, capital symbolique, oui, il y a du capital symbolique, il y a du capital collectif, il y a des connaissances qui sont produites, qui sont apprises, qui sont transférées, qui sont discutées et qui doivent faire ça. Et c'est censé être délégitimant. S'ils pensent que c'est délégitimant, c'est parce qu'il y a cette idée que, un bon opprimé de certaines catégories ne peut être là que pour témoigner et ne peut pas... articuler une pensée théorique. mais les organisations dans lesquelles ils sont sont des organisations qui produisent un corpus théorique constant et qui le mettent en action. Mais ça, c'est pour eux. Et quand d'autres le font, non, ça, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il fallait le lire, c'est la mauvaise foi intellectuelle et aussi, c'est leur propre lecture raciste de ça. Parce que le fait de dire « Oh, capital symbolique », c'était pas adressé à leur camp, c'était adressé à dire « Oh, si on dit « elle », en parlant des afroféministes, elles lisent des livres et elles citent des gens, etc. C'est du capital symbolique. Les autres noirs de la noirie, ils vont voir que quand même, il ne faut pas être avec eux parce que vraiment, elles lisent des livres. Donc en fait, c'était vraiment une interprétation extrêmement raciste de qu'est-ce que sont les noirs collectivement. Et une explication ahistorique, raciste et qui n'a aucun truc parce que la plupart des gens que si on demande à des noirs qui est-ce qu'ils connaissent comme penseurs noirs, ils vont citer des gens qui ont produit des corpus théoriques comme Aimé Césaire, Frantz Fanon, comme Stanley Karl Markel comment il s'appelle, Malcolm X, ou l'un des cofondeurs de Black Panther, qui à 19 ans avait un illettrisme fonctionnel et qui est devenu un des plus grands théoriciens de libération noire. Donc la question, ce n'est pas la lecture, la question c'est ce qui projette sur ce groupe monolithique qui n'aime pas les intellectuels et qui aime, je sais pas, qui aime des corps mis en action. Donc nous, on ne peut être que des corps qui manifestent. Et on doit faire ça avec nos corps, manifester, mais derrière.
Du coup, cet essai, c'est quoi ? C'est continuer à garder la narration, finalement ?
Je ne sais pas si c'est la narration, parce que c'est juste... parfois, c'est bien d'écrire ce qu'on pense comme proposition. Comme ça, je ne suis pas d'accord avec moi dans 10 ans. Je pourrais dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec moi. Mais c'est important de le mettre dans un objet fini et cohérent. Mmh. En fait, il fallait que ce soit un objet fini et cohérent pour voir le lien entre tout et pas... bon, ça fait très très longtemps maintenant que je suis sur Twitter, pour pas que ce soit juste des bribes fragmentées. Donc faire du sens, mais avec tous les fragments, et faire du sens à ce moment-là, maintenant que j'habite plus en France, c'était important. C'est comme un point d'étape, et après, dans 10 ans, on verra un autre point d'étape, ou dans 5 ans, je sais pas. Mais c'est important, et c'est aussi important collectivement quand on dit qu'on veut faire ce qu'on appelle... comme maintenant je me dirige pour être moins une militante et plus une scolaire interventionniste, faire des interventions politiques à partir de la théorie, c'est pour dire il faut produire des objets cohérents, parce que les gens qui ne sont pas d'accord avec ou les gens qui veulent critiquer, il faut qu'ils aient ça. Et je pense que c'est un objet qui est ouvert à la critique et au débat et à la conversation des contemporains maintenant, mais aussi des générations futures. Et si nous, on peut être en conversation avec ce que d'autres ont produit et dire on n'est pas d'accord, ça on est d'accord, etc. C'est parce qu'ils ont laissé quelque chose, donc il faut faire sa part aussi.
Merci beaucoup, Fania. Alors, on va pouvoir prendre quelques questions. Des questions, pas des commentaires. Je préviens. Voilà.
Je vais commencer à répondre. Donc, pour la première, aspiration à la liberté et le confort. Alors, moi, c'était pas dans le passage, mais je dis oui, bah, c'est normal d'aspirer au confort. On n'est pas, voilà, on veut. C'est mieux d'être confortable et de pas galérer. Mais la différence, c'est vraiment au niveau individuel. On peut aspirer au confort au niveau individuel. Ça veut dire, il faut demander des promotions, avoir pas être sous-payé, c'est important de vivre dans des logements décents, etc. Mais c'est la notion collective. C'est-à-dire l'aspiration au confort ne peut pas être, enfin si ça peut, parce qu'il y a plein de groupes qui proposent ça, ne devrait pas être l'objectif politique d'un mouvement qui dit qu'il est pour la libération. L'objectif d'un mouvement qui est pour la libération, il pense à l'amélioration, à devenir plus confortable, parce qu'il propose, par exemple, la commission logement de Moissy propose d'aider les gens à remplir le DALO pour qu'ils trouvent des meilleurs logements, aider les gens à savoir, etc. Donc ça, c'est une aspiration pour faire. Donc c'est ce qui est proposé pour améliorer aujourd'hui. Mais les organisations politiques, le cœur de leur mission, c'est demain. et demain ne peut pas être comme aujourd'hui où on essaye de grappiller des miettes. Donc c'est ça la différence, c'est individuellement ce qu'on peut faire et collectivement ce qu'on peut aider à aspirer au confort jusqu'à un certain point, aspiration au confort. Je ne sais pas, on ne va pas aider des millionnaires à devenir plus millionnaires, donc, parce que là on a dépassé le stade du confort, on est à stade de l'exploitation, mais faire en sorte que, parce que plus les gens sont, ont du temps disponible, moins ils galèrent, plus ils ont du temps à réfléchir à leurs conditions, plus ils ont du temps à mettre dans les organisations. Donc c'est pour ça que c'est important. Et collectivement, on doit penser à demain. Mais l'aspiration au confort, c'est quelque chose qui est plus individualiste et plus individuel, mais pas dans le sens mauvais de individuel, parce qu'il y a des sens de confort qui sont différents pour des gens. Bon, avoir un appart, pouvoir marcher à 20 minutes de leur travail, c'est bien, ils sont confortables. Il y a des gens, le confort, c'est il faut qu'ils voyagent en jet privé. Donc c'est différent. Donc ça ne peut pas être quelque chose qui peut être un programme politique, mais collectivement, qu'est-ce que le confort, collectivement, la liberté, ça, c'est au cœur des organisations politiques. Et après, sur l'afroféministe, l'afroféministe, comme il y a le mot afro dessus, c'est pour les personnes noires, les afro-cubains, afro-américains, afro-everything. Donc, c'est pour les personnes noires et ça regroupe ça, les personnes noires de partout qui sont dans, soit en minorité, mais l'afroféminisme ne concerne que les personnes noires en Occident, en Europe. Par exemple, aux États-Unis, on dit plus « black feminism », afroféministe, c'est plus en France, en Belgique, au Québec, en Suisse, au Québec, pas au Canada anglophone, vraiment que au Québec. Et ça recouvre vraiment une composition où le cœur du démographique vient, est issu d'immigration et non pas aux États-Unis où ils, sont, ils ont une communauté qui est là depuis près de 400 ans et qui ont une histoire commune, même si après se sont ajoutés les Haitian Americans, Sénégalaises Américaines, etc. Et ensuite, sur le continuum, moi, je pense que, quand tu dis, oui, les personnes, l'exposition universelle, ce qu'il faut voir, ce n'est pas qu'il y a une évolution, mais voir la mutation. Parce que ce qui a permis que des gens aient pu faire une exposition des os humains, c'est toujours la même idéologie qui permet que la préfecture de police arrache les tentes des personnes, qui permet que des journalistes de médias occidentaux puissent aller dans des pays, prendre des gens dans des conditions inacceptables, montrer des corps de personnes sans aucune pensée pour la dignité, pour leur famille. C'est la même chose qui permet ça. Donc, ce n'est pas vraiment une évolution, mais il y a une mutation. Et dans ces mutations, grâce aux luttes, parce que c'est toujours les luttes qui apportent, dans ces mutations, il y a des choses qu'on a pu grappiller. C'est-à-dire qu'il y a des formes de racisme qui doivent être... Il y a un auteur qui dit, ça s'appelle le colorblind racism, c'est-à-dire le racisme sans couleur. C'est-à-dire c'est racisme, mais on ne dit pas de front, c'est-à-dire on cherche d'autres choses. En France, on va dire que c'est plus culturel maintenant. On n'aime pas les gens parce qu'ils sont noirs ou arabes, c'est juste parce que vraiment, la civilisation, ce n'est pas pareil, ils ont des façons de faire... Pas comme nous, donc c'est plus ça. Donc en fait, c'est vraiment une mutation et non pas genre une évolution, une montée en conscience, même s'il y a une montée en conscience des groupes minoritaires. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est pas, il faut pas s'attarder sur la montée en conscience ou l'aspiration à comme ça, le sens moral, comme dirait Assata Shakur. Personne n'a obtenu la liberté en appelant au sens moral des personnes qui les oppressent. C'est la montée en la radicalisation de la conscience des groupes subalternes dans leur lutte pour leur liberté qui fait la différence et non pas la montée en conscience des personnes qui font partie des groupes oppresseurs. Ça ne marche pas trop. Et pour la dernière question sur les essais, je pense qu'il y a deux différents. Il y a des contenus où on peut trouver de la poétique dedans. Moi, dans mon livre, il y a plein de choses qui viennent... des romans de Toni Morrison, de Maria Maba, de Edwige Dantica. Et il y a de la poétique qu'on peut trouver dans les romans. Moi, je suis spécialisée en cultural studies. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde plein de séries et je dis ce qu'elles veulent dire. C'est vraiment bien. Je passe ma vie sur HBO et je regarde des séries. Et après, j'écris des articles des articles universitaires sur des séries. Donc oui, il y a tout un champ d'études qui est sur ça, sur le cultural studies, sur regarder sur qu'est-ce que ça dit de l'ordre symbolique, quel genre d'image on est à faire. Et dans les romans écrits par des afroféministes, des romans qui ont une portée afroféministe, à ça, mais la différence d'essai politique, c'est qu'il y a moins de marge, parce que comme le que faire, le fameux que faire, je pense à toi Laetitia, de notre chère amie, ça donne des pistes, des réflexions, et ça peut être des bases pour des organisations politiques. Et ça, ça fait que des personnes se mettent en action. Donc les conséquences sont pas les conséquences pas dans le sens péjoratif, hein, mais les retombées sont pas du tout les mêmes que dans les œuvres de fiction. Et les œuvres de non-fiction ont une portée où on peut pas juste se cacher derrière son personnage ou dire machin, etc. C'est-à-dire il faut vraiment assumer que en fait c'est la proposition qu'on a pour l'organisation sociale et politique de la réalité. Et on l'assume à ce moment-là, et ça, il faut assumer aussi d'avoir tort quand ça ne se passe pas vraiment comme prévu ou quand les choses évoluent. Et aussi, il faut assumer la façon dont c'est réceptionné, parce que je suis sûre que chaque jour que Dieu fait, Martin Luther King se retourne dans sa tombe, surtout quand les Français parlent de lui. Donc ça aussi, c'est problématique. Et il y avait une dernière question de Théo.
Bonsoir. Moi, je me demandais si tu avais une idée, une envie d'une collaboration d'écrire avec quelqu'un en France et sur quel sujet. Voilà, bonne chance. Tu n'es pas obligé de répondre.
Ok, good to know. Sur quel sujet ? En fait, le truc, c'est comme j'ai aucune imagination. Enfin, je dis toujours ça, j'ai pas d'imagination. J'écris de la. Des articles de. J'écris pas de fiction. Donc, si j'écrivais des fictions et que j'étais douée, j'écrirais avec Laura, mais comme je ne suis pas douée pour imaginer des trucs. Mais si je dois trouver quelqu'un à écrire quelque chose sur. Pas sur la fiction, je pense que je pourrais écrire quelque chose avec Hamzat Boukhari sur qu'est-ce que ça veut dire d'être une organisation politique noire. Je pense que je pourrais écrire quelque chose avec Sia Masbag pour savoir qu'est-ce que ça veut dire être radioactif comme militant, sur qu'est-ce que ça fait quand les gens ils disent vous êtes trop radical, et même les autres militants ils veulent pas être vus avec vous. Ça ferait un livre très très drôle. Ça ferait un livre très 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 drôle. Et je pense que je pourrais écrire un livre avec Maboula sur qu'est-ce que ça fait quand on est noir en France et qu'en fait on est obligé d'aller aux États-Unis pour conduire des recherches sur les noirs en France et pour faire sa thèse. Ça, ce serait bien. Je vais pas gâcher tes livres.
Quand Bourakis, on vous parle. 3 idées de bouquins, on vous attend. Merci Fania, merci à Marie-Julie et également merci à Eve et Nadej. Mais en tout cas, je voulais déjà les remercier d'avoir participé à cet événement et également merci à la Flèche d'Or d'avoir accueilli cet événement. On va pouvoir clore du coup cette rencontre avec un dernier extrait qui sera encore une fois lu par Marie-Julie.
3. Une politique afroféministe en contexte français est une politique qui ne confond pas expérience et expertise. Une des victoires de nos luttes est d'avoir fait valoir que l'utilisation de nos vécus permettait de créer savoir et analyse. Si cette victoire est importante, il est dangereux pour tout mouvement politique de penser que l'expérience individuelle et le vécu sont suffisants pour produire de l'idéologie à destination des mobilisations et des mouvements politiques. C'est pour cela que notre politique doit pouvoir identifier et transformer ses expériences individuelles en matériel pour construire une conscience politique collective et une expertise. Pour ce faire, notre politique doit investir dans l'éducation populaire comme lieu de transmission, de formation et de production idéologique à destination de la lutte politique. 5. Une politique afroféministe en contexte français comprend que les systèmes de domination se renforcent et disposent de logiques propres qui peuvent être contradictoires. Il nous faut constamment actualiser et conceptualiser nos réponses et nos analyses. Nous assistons aujourd'hui à la multiplication des postures de la part de mouvements qui n'ont que mépris et défiance à l'égard des luttes féministes et tente de s'ériger en force de proposition et de défense des femmes face au capitalisme et au néolibéralisme. Les masculinistes, soi-disant anticapitalistes, ont une solution clé en main. Retirer les femmes de la dépendance au patronat pour les confier à la dépendance d'hommes bien intentionnés. Les mêmes logiques sont à l'œuvre lorsque nous est vendue la restauration, le retour au modèle afro ou africain originel d'un supposé ordre matriarcal précolonial. Une politique afroféministe est une politique de l'opposition acharnée contre les discours masculinistes noirs qui postulent la non-existence d'un patriarcat noir et qui analysent notre politique au prisme de l'instrumentalisation par le pouvoir et la suprématie blanche. Ces positions font de la blanchité et de l'Occident le centre de leur analyse, oubliant que la majorité des Noirs vivent dans des pays situés hors de l'Occident et que le patriarcat y est tout aussi présent qu'en France. Nous refusons d'être condamnés au silence par peur de l'utilisation et de la récupération. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de la mauvaise foi intellectuelle, de l'indigence et du jusque-boutisme de nos ennemis idéologiques. D'ailleurs, qu'il s'agisse de nos silences, de nos actes ou de nos paroles, nous finissons toujours sur le banc des accusés. C'est parce que notre politique reste vigilante face aux reconfigurations constantes entre racisme, hétéropatriarcat et capitalisme que nous pouvons identifier qui sont nos partenaires de lutte, même lorsque nous avons des désaccords politiques localisés. Cette vigilance nous permettra de débusquer les oppositions au capitalisme, au racisme ou au patriarcat qui ont pour objectif de renforcer l'un ou l'autre, et d'accepter des désaccords localisés afin de faire des alliances stratégiques. Nous pouvons ainsi nous positionner sur des luttes qui ne contiennent pas toute notre politique, mais assez pour servir nos objectifs de libération. 7. Une politique afroféministe en contexte français est une politique du changement radical et non une politique réformiste. À chaque fois que nous rappelons la nécessité d'abolir le capitalisme, le patriarcat, le racisme, la prison ou la police, et toutes leurs formes atténuées que l'on retrouve dans notre vie quotidienne, administration, école, travail, loisirs, nous créons des nouveaux imaginaires. Ces imaginaires politiques pour l'organisation sociale, la nature et la distribution du pouvoir se forment lorsque nous essayons de répondre collectivement aux questions suivantes, autrement que par « ce n'est pas possible ». Comment organiser la société en dehors de la logique carcérale et punitive? En dehors de la négrophobie globalisée, du racisme généralisé et de l'impérialisme? En dehors de l'accumulation du profit, de la croissance illimitée, de la compétition pour les places et de la marchandisation? En dehors de la division sexuelle et de genre de la société, de la centralité de l'idéologie cis-hétérosexuelle de reproduction sociale? Le caractère abolitionniste de notre politique est fondamental pour maintenir des lignes politiques claires, dirigées vers la libération, pour faire la différence entre compromis nécessaire et compromission. Être idéologique est utilisé comme une insulte de la fabrication petite bourgeoise du débat public. Souvent, celles et ceux qui se prétendent non-idéologues portent la normalisation de l'idéologie dominante et l'instaurent comme une réalité aussi indiscutable que le besoin d'oxygène pour vivre. La façon dont nous voulons vivre, où, avec qui, notre éthique et ce à quoi nous aspirons individuellement et collectivement sont le produit d'un mélange d'idéologies. Les idéologies qui nous sont imposées par le système, celles que nous avons construites par nous-mêmes, dans nos familles, avec nos pères ou dans d'autres milieux. L'activité politique consiste à faire passer une idéologie collective à une échelle structurelle et à en faire le principe d'organisation principale de la société. Notre situation de mouvement minoritaire, tant sur le plan politique que démographique dans un pays comme la France, nécessite une clarté politique, éthique et idéologique afin de ne pas nous perdre dans les fantasmes de victoire ni dans les illusions de défaite. Au vu de la configuration démographique, politique et sociale en France, le refus comme force de déstabilisation l'expérimentation et la réinvention doivent donc être les trois objectifs principaux d'une politique afroféministe, radicale, révolutionnaire. Ces objectifs sont la traduction de ce qui nous caractérise comme mouvement politique doublement minoritaire, notre persistance à résister.
Merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Alors, on rappelle que vous pouvez évidemment vous fournir le livre.